mon podcast sur la commode. Une émission proposée par la scène nationale de Bourg-en-Bresse pour aller à la rencontre de celles et ceux qui rendent le spectacle vivant. À l'ouverture des tiroirs, Claire, Cyril, Gaëlle, Lisiane et Mélodie. Une nouvelle saison commence et avec elle, la reprise de notre podcast. Nous avons choisi de vous faire entendre l'artiste Anaï de las Cuevas, qui, avec son collectif, crée en ce moment même le spectacle « Serré Millionnaise ». Il sera présenté en première mondiale au Théâtre de Bourg le 5 novembre prochain. Au micro de Lisiane, elle nous livre son parcours et pourquoi ce spectacle sur le corps embaumé d'Eva Perón.
Eh ben bonjour Anaï, merci à toi d'avoir accepté cette interview pour le podcast de la scène nationale. Tu es donc ici en résidence pour ton spectacle Serré Millionnaise qui va avoir lieu pour la première fois le 5 novembre à la scène nationale. J'aimerais que tu puisses un peu te présenter en quelques mots pour que les auditeurs puissent un peu mieux te connaître.
Je suis argentine, ça fait 12 ans que j'habite en France. Je suis venue pour faire l'école nationale du cirque, le CNAC, le Centre National des Arts de Châlons-en-Champagne. Voilà, je suis venue pour faire mes études, pour faire du cirque. Je me suis spécialisée en cerceau aérien et contorsion. Autrice, c'est mon deuxième spectacle. La première, c'était « Les corps sans organes ».
Les corps sans organes.
Okay. Ouais, il s'appelle comme ça. C'est un spectacle pour l'espace public.
Ok.
Qui a fait du son des tournées en Ardèche. Puis je suis interprète pour la compagnie Les Mains, Les Pieds, La Tête aussi, avec Mathieu Rambols, sur les plateaux, et là maintenant avec Surimaka qui est actuellement en tournée.
C'est ça, et que l'on a reçu il y a quelques mois du coup à
ouais,
la scène nationale.
Exactement.
Qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigée vers le cirque?
Bon, alors j'ai commencé quand j'étais assez jeune, j'avais 17 ans. Mais c'est assez tard pour commencer le cirque. Et alors, qu'est-ce que c'était? Je pense que j'ai vu des gens dans la rue en pratiquer. En fait, c'est très ludique. Je commençais avec les aériens. Du coup, quand même, ça grimpe, ça va très haut, ça fait des shoots.
C'est très impressionnant.
Voilà, c'est très impressionnant. Donc, à ces moments-là, c'était juste l'envie d'essayer. Enfin, en Argentine, il y avait un peu des cours un peu partout. Du coup, j'ai essayé. Après, c'est devenu un peu un... Il est devenu ma profession, quoi. Mais ouais, c'était très ludique pour les corps, surtout. Pour le savoir-faire du corps, pour apprendre à se renverser, à penser à l'envers. On ne pense pas pareil.
Quand on est sur le cerceau en hauteur, tu veux dire?
Par exemple, mais surtout quand on a la tête à l'envers.
Ouais.
On ne pense pas pareil si on est tout droit. Le cerveau, il marche différemment, donc il y a tout un apprentissage super intéressant.
Là, le spectacle... dont tu es sur les dernières semaines de résidence chez nous, qui s'appelle Serré Millionnaise, qui est l'histoire d'Eva Perón, donc qui était une militante féministe pour les droits sociaux dans les années 40-50, en Argentine, du coup. Comment son corps a été, après sa mort, été entouré d'énormément de mystères, et c'est ça que tu as voulu travailler dans ton spectacle. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'histoire de cette femme, l'histoire autour de son corps? Qu'est-ce qui a fait que tu en as fait le sujet de ton spectacle?
Alors, l'histoire du corps embaumé d'Eva Perón, c'est une histoire qui m'obsède depuis que je suis toute petite, plus précisément depuis que j'ai 8 ans. En fait, c'est ma mère qui me l'a présentée, Eva Perón. On regardait un documentaire à la télé, justement, de l'histoire du corps embaumé. En fait, c'est un corps qui a été volé. Enfin, Eva Perón, c'est une femme qui est morte très jeune, à 33 ans. Son mari, qui était à l'époque... Enfin, en 1952, était le président d'Argentine. Lui, il décide d'embaumer les corps un peu en cadeau à son peuple.
Ouais.
C'est un peu
un cadeau, le cadeau.
Les cadeaux du président à son peuple.
C'est étrange comme.
C'est étrange,
cadeau.
Oui, mais ouais. Sa figure était très, très, très importante pour la population en Argentine. Enfin, une grande partie de la population en Argentine. Elle était vraiment sanctifiée même avant sa mort. Donc, un peu dans la volonté, du coup, de rendre la rendre éternelle. Donc,
ils l'ont embaumée.
Ils l'ont embaumée, quoi. Et au départ, elle soit exhibée à la CGT. Les corps a été même les processus d'embaumement ont été faits à la CGT et c'est là qu'elle a resté pendant les 200 qui s'en suivent. Ensuite, il y a eu une dictature militaire. Okay. Perron se fait destituer, du coup il quitte le pays, part vers l'exil et les corps de Vita, il reste à la CGT en Bomé. Donc les régimes militaires décident de kidnapper les corps en Bomé, mais du coup ils ont voulu les cacher. Et c'est là où commence l'histoire, parce que la deuxième histoire descend de cette femme. En tout cas, c'est une histoire de malédiction un peu. On dit que qu'ils n'arrivaient pas à le cacher, qu'ils essayaient, par exemple, de le cacher dans un bâtiment, bah, le bâtiment il prenait feu. Et puis, le déplacer avec un camion, bah, les camions avaient un accident. Les militaires qui étaient à la tête de l'opération, ils ont commencé à devenir fous. Et aussi fou pour les cadavres lui-même. C'est-à-dire qu'ils ont fini par... Par exemple, il y a une qui l'a cachée dans sa maison, sauf qu'il ne l'a pas dit à sa femme, qui était enceinte. Et il a fini pour tuer sa femme en pensant que c'était un voleur qui venait chercher le corps, par exemple. Les colonels, les plus hauts dirigeants, du coup, à la tête de l'opération, lui, il a fini carrément en hôpital psychiatrique. Tout ça pour dire qu'en fait, ils sont tellement galéré en Argentine à placer cette corps quelque part,
ouais,
qu'ils ont fini pour l'exiler en Europe. Ils l'ont mis dans un bateau, avec trois autres cercueils. Et ils ont fait plusieurs enterrements à Rome, à Milan. Selon l'histoire officielle, les vrais corps ont été cachés dans les cimetières de Milan. Et il a resté, du coup, disparu. Enfin, il a resté disparu pendant 17 ans. Jusqu'à ce que les militaires eux-mêmes l'ont rendu. Ils l'ont rendu à son mari qui est exilé en Espagne.
Qu'est-ce qui, dans cette histoire, sur ce corps, sur Eva Perón, sur le symbole, qu'est-ce qui t'a obsédé depuis enfant ?
Du coup, ma mère... Enfin, du coup, j'ai vu dans un documentaire, quand j'avais 8 ans, enfin, justement, les résumés de cette histoire. Mmh. Et dans les documentaires, il y avait énormément des images d'Evita embaumé, de son corps embaumé. L'idée de qu'un corps ne se dégrade pas avec les temps. Ça, à mes 8 ans, ça a été un peu un choc. Et plus tard, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Santa Evita. Evita, c'est le surnom d'Eva Perón.
C'est ouais. Ça.
Enfin, j'ai lu cet roman qui raconte cette histoire, l'histoire du cadavre. Que aussi, c'est un roman qui mélange fiction et réalité. Sauf que à la suite de lire ce bouquin, je me suis mis à chercher de l'information pour comprendre qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui ne l'était pas. On n'était pas sûr. Et à la suite, c'est notamment depuis que j'habite ici en Europe, où je consacrais plus de temps à chercher de l'information et à voir...
Un travail d'archive,
Le travail d'archive, j'ai vraiment commencé ici. C'est un peu drôle parce que c'est l'histoire de mon pays qui me rattrape
ici,
de l'autre côté de l'océan. C'est un projet du coup que j'ai commencé il y a plus de 5 ans.
Et comment c'est devenu un spectacle, en tout cas l'idée du spectacle ? Comment t'as transitionné vers cette idée-là ?
Au départ, non. Au départ, c'était seulement l'obsession. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit que j'avais beaucoup trop d'informations et qu'il fallait que j'en fasse quelque chose parce que ça n'avait aucun sens.
Les garder juste pour toi ?
Oui, exactement. Mm-hmm. Aussi un peu pour encadrer toute ma recherche et puis mettre un point final peut-être aussi.
Okay.
Moi j'ai fait des spectacles. Moi c'est mon métier. Je suis partie là-dedans.
Comment t'as commencé à utiliser toutes les recherches, toute l'enquête que t'avais faite et le mettre en lien avec le cirque? Comment est-ce que t'as réussi à apporter de la dramaturgie à cette histoire-là et à le mettre au plateau, du coup?
Oui. Bah, justement, les plus ambitieux de ce projet, c'est justement comment on fait depuis le cirque pour raconter cette histoire qui est aussi assez complexe parce qu'on entend la raconter dans un pays qui n'est pas forcément au courant de ce personnage. Donc, c'est un gros pari.
Il y a beaucoup d'enjeux
dans tout ça. Oui, de trouver les moyens de rendre tout ça, entre guillemets, compréhensible, qu'il soit contextuel quand même.
Que les gens comprennent, même s'ils n'ont pas connaissance d'Eva Perón, de quoi on parle, dans quelle époque ça se situe.
Exactement, tu vois, et qu'on sache que c'est quelqu'un qui a fait la politique, et qu'on sache qu'il est important pour le peuple argentin. Enfin, raconter l'histoire, du coup, c'est encore l'histoire qui me mobilise, moi. Et puis, en parallèle, du coup, notamment, on parlait de notre lien avec cette femme et qu'est-ce que c'est qui nous questionne là-dedans. Soit qu'est-ce qu'on a fait du corps d'une femme, hein, qui a passé par les mains des hommes. Qu'est-ce que c'est le voyeurisme là-dedans? Donc aussi, on essaye de ne pas donner les exemples les plus trash, ou comment on raconte ça sans les manquer de respect aussi. Et donc voilà, c'est un gros pari narratif pour ça. En fait, moi, je suis... Enfin, on utilise des textes. Donc, quand même, il y a la parole et aussi un voix off. Et ensuite, on a des sortes de, entre guillemets, témoignages sur scène. C'est nous qui on prend la parole et qui, du coup, on prend avec nos différentes visions. Nous sommes trois sur scène. Il y a moi-même, mais aussi il y a Sophia, qui est contorsionniste et trapéziste. Et il y a Victoria, qui est comédienne danseuse. Donc, toutes les trois, on prend la parole et on a toutes les trois des approches différentes à cette figure aussi. Il y a quelque chose qui, pour moi, c'est assez corrélatif, c'est le fait que l'histoire du corps mort en vomi d'Eva Perón, c'est l'histoire d'un corps qui n'a pas, qui ne connaît pas des limites. Le dépassement des limites d'un corps aussi. On devrait se dégrader, là, on a fait qu'il continue tout entier, quoi. Et bon, la contorsion, c'est quelque part aussi un peu ça. Est-ce qu'on arrive à raconter avec nos corps, comment on bouge, qu'est-ce que nos corps font, qu'est-ce que nos corps ils sont capables de faire.
Et donc, du coup, dans l'écriture de la dramaturgie, de comment est-ce que tu as amené la contorsion, le cerceau dans cette histoire, ça a été quoi les grandes phases de création une fois que tu t'es dit « moi, je veux écrire là-dessus » et que tu as commencé à écrire le spectacle?
Alors, les grandes étapes, au-delà de mon enquête personnelle, ça, c'était les vrais départs. Ensuite, le plus important pour moi, c'était de trouver l'équipe. Où on a fait des laboratoires. Laboratoires, c'est des phases de rencontres, en tout cas, assez libres, où des gens se mettent ensemble pour travailler ensemble. En tout cas, c'est des CC... Et dans ce moment de rencontre, on a validé du coup l'équipe, on s'est dit ok, d'accord, on est nous, on a envie de continuer. Enfin, on a commencé à partir de nos corps à nous et notre savoir-faire. Et on s'amusait toutes les trois, du coup, avec, notamment dans sa improvisation, quoi. Et à la suite, par contre, j'ai fait beaucoup de travail à la table avant d'y aller en résidence. J'ai écrit beaucoup. Comme on utilise le texte aussi, j'essaie d'arriver avec des propositions assez claires. Enfin, on est un peu obligé de commencer les travaux sur l'axe d'une écriture. Quand on est en résidence, on garde quelques jours un peu free, disons, un peu plus libre, pour faire seulement des improvisations, du coup. Ça aide aussi à trouver des répondants entre ce que le texte dit et ce que le corps fait. Et en plus, voilà, le dernier volet, c'est que... Enfin, non, pas le dernier, il y en a deux en plus, c'est qu'on a la vidéo. On a des images que j'en ai fait moi-même.
C'est toi qui les as créés, ok.
Oui, la majeure partie. Et puis, il y a des images d'archives aussi, un petit peu. En fait, pour moi, c'est important qu'on puisse aussi voir son visage.
Et donc là, donc ça, c'était la dernière grande étape.
Là, du coup, maintenant.
Et maintenant, c'est les deux semaines que tu vas passer à la scène nationale. C'est quoi les dernières étapes de la dernière ligne droite avant la première du spectacle?
Du coup, nous sommes actuellement, nous avons actuellement les grandes lignes du spectacle. On a fini la narration, entre guillemets. On sait ce qui se passe dans le spectacle, on sait quand on commence, on sait comment on finit, on sait... Donc maintenant, on va travailler sur chaque scène. On rentre dans les détails. C'est aussi une résidence où on va prêter une attention particulière à toute la technique, la lumière, la vidéo... Les sons. apprendre nos textes, venir dire avec l'intention, on va vous défendre.
Pour moi, l'interview touche à sa fin. Est-ce que tu as une œuvre que tu aimerais recommander aux auditeurs du podcast?
Je pense à... par rapport à ce sujet du coup qui m'intéresse là, donc Eva Perón. Il y a un film qui était coproduit entre Argentine et France avec Denis Lavant qui s'appelle Eva ne dort pas, mais qui est très intéressant. D'accord. Il y a des images incroyables d'archives. Enfin, ils ont vraiment fait un très très beau montage où ils racontent des bouts d'histoire de la disparition du corps de Babylon.
Et ben merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps. Et puis on a hâte de voir le spectacle le 5 novembre. Merci à toi.
Merci à toi.
Alors qu'Halloween sème partout ses citrouilles, ses déguisements et ses bonbons, que les chrysanthèmes vont joliment égayer nos cimetières, la scène nationale vous donne rendez-vous pour la fiesta de la mort. Du 4 au 8 novembre, au théâtre de Bourg-en-Bresse, nous vous proposons de célébrer la vie en parlant de la mort. Le programme détaillé est disponible un peu partout au format papier ou numérique, mais il ne faudra surtout pas manquer. Le dialogue entre Magali Bria-Philippe du Monastère Royal de Broue et Mathieu Lelièvre du Musée d'Art Contemporain de Lyon autour de la mort dans l'art. Ce sera le mardi 4 novembre à 19h, gratuit. L'émission de radio en direct et en public avec Radio B et surtout avec Serena Giuliano pour faire connaissance avec cette romancière qui a déjà conquis 1 million de lecteurs et évoquer avec elle les sujets du deuil et de la résilience. Ce sera le samedi 8 novembre à 11h, gratuit. Du 5 au 8 novembre, vous pourrez composer votre costume en venant faire un tour à la costumerie. Vous y trouverez des vêtements et des matériaux ressourcés, ainsi que les conseils avisés de personnes compétentes pour créer votre plus beau costume. Et participez ensuite au défilé de la Scala Veras le samedi à 18h. Là aussi, c'est gratuit et vous repartirez avec votre costume créé. La Fiesta de la Mort, du 4 au 8 novembre. Orchestrée avec de nombreux partenaires, des rendez-vous pour toutes et tous, gratuits ou payants, se terminera entre salsa, cumbia et cha-cha-cha avec le groupe Los Cocos le samedi 8 novembre à 20h. Et là encore, c'est gratuit. Et pour toutes nos actualités, rendez-vous sur la toile www.théâtre-bourg.fr, Facebook et Instagram.